que vous avez des questions sur ce qu'on a dit la semaine dernière? Alors, je vous ai donc, s'il n'y a pas de questions, donc je considère que tout est clair, tout va bien. Alors, je vous ai distribué deux documents. D'abord, une toute petite microscopique bibliographie, parce que, comment dire, c'est un survol, mais enfin, bon, je vais brièvement la commenter, et ensuite le plan du cours d'aujourd'hui, qui est donc le cours 2. Bon, la bibliographie, je me suis vraiment contenté de mettre des instruments et outils, c'est-à-dire je ne suis pas allé sur beaucoup de... Vous savez, c'est ce qu'on trouve. Ce que j'ai fait, c'est ce qu'on trouve dans les bibliothèques au rayon outils, instruments, à l'entrée des bibliothèques que vous empruntez comme ça. Vous sortez pas de bibliothèque, mais qui ne sont pas ni des traités, ni des livres, ni des essais, ni des évidemment pas des romans. C'est difficile sur la question, mais voilà. Je me suis vraiment contenté des outils pédagogiques que vous pouvez consulter. Et puis des textes du magistère, parce que ce sont évidemment les textes de référence, que vous d'ailleurs pouvez consulter aussi, et qui n'est pas nécessaire de les avoir forcément chez soi, d'autant moins nécessaire que maintenant ils sont en ligne sur le site du Vatican, et que ça a révolutionné évidemment les bibliographies, parce que la plupart des textes, il suffit d'aller sur le site du Vatican, et au moins pour le magistère, vous avez donc les textes officiels. Donc vous pouvez bien entendu les acheter pour vous chez un éditeur. C'est beaucoup mieux parce que ça fait vivre l'édition. Et si vous êtes comme tout le monde, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que vous ne lisez plus sur format papier, eh bien, pas tant de gens que ça, mais disons une portion significative, vous pouvez aller sur le site, c'est plus commode. C'est d'autant plus commode si vous le faites pour vous référer à une citation, à un paragraphe, à une notion, après que vous lisiez l'intégralité, peut-être pas du site, mais même d'une encyclique, c'est pas évident, hein. Certaines sont très difficiles. Alors je commente brièvement la bibliographie pour que vous puissiez vous en servir le cas échéant. J'ai d'abord mis, donc, comme il se doit, comme dans toute bonne bibliographie de théologie catholique, il faut toujours mettre les textes du magistère en premier, à tout seigneur, tout honneur, même s'ils ne sont pas les plus urgents pour la question qui vous intéresse. C'est la convention, quand on écrit en théologie catholique, c'est de mettre toujours dans une bibliographie les textes du magistère en premier. Alors j'ai mis ceux du magistère. J'ai évidemment, on pourrait faire un cours d'ailleurs rien qu'avec la bibliographie. On pourrait commenter la bibliographie, ce serait l'essentiel du cours. J'ai mis le texte du Concile, Vatican II, dont je vous ai dit que ce n'était pas un texte, un concile spécifiquement moral. C'est d'ailleurs pas non plus un concile spécifiquement théologique. Doctrinal, pardon. Hein. Vatican II n'est pas d'abord un concile doctrinal. Il a avant tout été considéré, parfois un peu à tort, comme un concile pastoral. Je vois que vous ouvrez des grands yeux, mais c'est extrêmement important, parce que la plupart des conciles, tous les conciles, sont des conciles qui ont été convoqués pour répondre à une question de doctrine, hein, pour répondre à une hérésie nouvelle, à un schisme, à un point de doctrine. Pas Vatican II. Et donc, c'est un concile pastoral, c'est-à-dire, on va dire, mu par la nécessité du temps, si vous voulez, et pas d'abord par une question de doctrine.
On a envie de dire enfin
Oui, c'est une nouvelle manière, si vous voulez, de faire de la théologie. On ne réagit pas à une erreur, en général pour la condamner. On écrit parce qu'on a l'envie pressante d'écrire pour annoncer l'Évangile. Donc c'est un peu une autre... Même, c'est beaucoup. C'est une autre façon de faire. Alors, dans ce concile, je vous ai dit, il y a la plupart des textes qui concernent la morale familiale sont la répétition à l'identique de la tradition précédente, ce qui n'est pas surprenant. Les grandes nouveautés touchent essentiellement à la morale économique et sociale, mais vous voyez, c'est très contextualisé, c'est-à-dire c'est vraiment les années 60, et si vous lisez certains des textes du concile, vous verrez qu'ils ont beaucoup vieilli, hein, parce qu'ils sont très datés. On a certainement dû déjà vous le dire amplement, les années 60, c'est plus du tout, ou plus complètement, on va dire, le contexte économique et social qui est le nôtre. Donc les textes sont datés, même si on peut continuer à les recevoir, bien sûr, ils sont insérés dans un contexte qui est plus tout à fait le nôtre. Donc le texte du Concile, pour vous situer, ne rougissez pas si vous n'avez pas lu le Concile. Je pense qu'actuellement, une partie substantielle de l'épiscopat, les évêques les plus jeunes, ne l'ont pas lu intégralement. Hein, c'est-à-dire, c'est faire l'effort de lire intégralement le Concile Vatican II. Je pense que ça se faisait dans la foulée du Concile. Si on prend, c'est Christophe Théobald qui disait ça dans ses cours, hein, l'ecclésiologue jésuite du Centre Sèvres qui vient de prendre sa retraite. Il disait, je suis convaincu que la plupart des jeunes évêques, c'est-à-dire jeunes dans l'épiscopat, ça veut dire l'âge de Monseigneur de Moulin-Beaufort, donc il est jeune à 57 ans, n'ont pas lu, lui je pense que forcément, puisqu'il a fait une thèse sur de Lubac, mais n'ont pas lu tout le texte du Concile. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, parce que ça veut dire que c'est le dernier développement le plus actualisé de la tradition Vatican II. S'il n'a pas été entièrement lu, bon, à voir. Mais à vérifier. Ensuite, j'ai mis le texte du catéchisme. Alors là, c'est le catéchisme de Jean-Paul II, signé sous le pontificat de Jean-Paul II en 92. Et là, il y a énormément de morale. Énormément, énormément. Tous les aspects de la morale. Avec des pas, comme vous connaissez bien, mais entre le catéchisme de Lise, qui est de votre livre de chevet, je pense, eh bien, vous avez. Il est rédigé par des paragraphes plus ou moins longs, mais quand même assez courts, et même à la fin de chaque chapitre, il y a un petit résumé de l'ensemble du chapitre. Et c'est. Il y a énormément de morale dans ce catéchisme, puisqu'il a été rédigé selon la structure des anciens catéchismes, où la morale est un point important, et. Morale générale, morale familiale, morale économique, morale sociale, tout, il y a tout. Donc là, par contre, si vous êtes un peu déçu par le Concile en termes de morale, vous trouverez dans le texte du catéchisme un texte abondant en morale, qui intègre les développements du magistère après Vatican II. Il y en a eu énormément. Et donc, c'est un texte de référence. J'aurais pu mettre le catéchisme des évêques de France, qui est trop peu cité, mais qui est très intéressant. Pour tout vous dire, d'ailleurs, je le préfère amplement au catéchisme romain, mais il est sorti, je crois, un an ou deux avant le catéchisme romain. Et donc, le catéchisme romain l'a un peu éclipsé, mais c'est un très bon texte. Et puis, il y a le catéchisme aussi que j'aurais pu vous citer, des évêques allemands, c'est très allemand, c'est-à-dire on dirait un gros traité de théologie ou de théologie, mais c'est aussi un très bon document. Bon, je vous ai mis le catéchisme romain parce que il est universel et seul le catéchisme romain a cette valeur-là, universelle. Donc, voilà. Après, je vous ai mis par ordre de priorité, par ordre hiérarchique d'importance, là aussi, quand on classe une biblio, hein, le concile, le catéchisme. Les encycliques, alors, Rerum Novarum, parce que c'est la grande encyclique sociale de Léon XIII, je pense qu'on vous en reparlera. Casti Connubi, qui est l'encyclique de Pie XI sur le mariage. 1930, Alors, je la mets parce que, bon, elle touche la morale et la morale familiale, puisque c'est le mariage. C'est aussi une encyclique qui et c'est une nouveauté. Alors, j'ai longtemps cru que c'était une nouveauté totale, et je crois que je me suis trompé. J'ai vu que ça avait déjà été mentionné avant, mais c'est pratiquement ça. C'est presque une nouveauté totale. C'est une encyclique qui donne comme fin du mariage, comme but du mariage, alors non seulement la procréation, mais le bien des époux. C'est-à-dire, vous voyez, 1930. Donc c'est quand même, au regard de l'histoire, c'est quand même très proche de nous, au regard de l'histoire. Même pas un siècle. Hein. Et c'est dans cette encyclique que l'Église commence à affirmer avec plus de conviction, j'allais dire, ou de solidité, qu'il ne s'agit pas seulement dans le mariage de reproduire l'espèce et de transmettre biologiquement la vie, de donner naissance, mais également aux époux de pouvoir être heureux dans le couple, si vous voulez. Donc c'est... Vous voyez, mais on est en 1930. Hein, vous savez que... Je dis ça parce que, concomitamment à cette encyclique, juste avant... Il y a eu deux codes de droit canon dans l'Église. Les deux codes les plus récents, c'est 1917 et 1983. Donc, vous voyez, il y en a un qui est avant et l'autre qui est après. 1917, la seule fin du mariage dans le code de droit canon de 1917, c'est la procréation. 1917. La seule fin du mariage, c'est donner naissance aux enfants. 1930, Casti Connubii commence à proposer autre chose. Et si vous prenez le code de droit canon suivant, qui est sur lequel l'Église vit actuellement, qui est le code aussi signé par Jean-Paul II, qui date de 83, ce code-là donne deux fins pour le mariage, le don mutuel des époux, enfin, ou le bien mutuel des époux, et la procréation. Hein, mais il y aurait une assez belle enquête théologique à faire sur les sources de cette affaire-là, c'est-à-dire à quel moment exactement est apparu dans l'histoire, et donc pas seulement dans l'histoire, de la doctrine morale, les deux fins du mariage, pas seulement la procréation, mais également le don mutuel des époux.
C'est-à-dire qu'un couple infertile...
Ah bah, c'est la grande question, oui.
Son mariage était invalide ?
Non, l'infertilité n'est pas un motif de... ça c'est... Absolument pas. Mais, donc, ce n'était pas... on ne peut pas le dire.
Alors, le mariage de deux veufs d'un certain âge ?
Vous allez bientôt arriver aux questions de Jésus dans l'Évangile. Et alors, elle avait cinq époux, et de quel... À la fin, le mariage de deux veufs... les couples précédents, sont frappés par les décès, les unions sont dégagées, si vous voulez, et donc un mariage est possible.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, naturellement, deux personnes d'un certain âge qui se marient...
Oui, ça pose pas de problème.
C'est-à-dire
que, voyez, la notion de... C'est précisément ça. Le mariage n'est pas que la procréation. Le mariage correspond également au don mutuel des époux. Et les deux conditions ne sont pas forcément réunies ni indispensables. Il n'y a pas de...
Mais avant 1917 ?
Ah, je pense que oui. Même si ce n'était pas formulé. Ce serait à vérifier, mais je pense que oui. J'ai célébré il y a 3-4 ans un mariage de deux personnes de 80 ans qui ont l'air de bien se porter et dont le don mutuel n'était pas discutable. Mais voilà, il y a donc une... En tout cas, formalisé, reconnu, 1930, puis 1983 pour le code de droit canon. C'est-à-dire, parce que très 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 longtemps, hein, le mariage, la seule fin du mariage, c'était la procréation. Et la procréation, puis je vais en terminer là, mais c'est parce qu'il y a eu la question, la procréation étant considérée par saint Augustin comme un péché permis. Bah ouais, hein. Un péché permis pour procréer. Donc, bah oui, bah, y a la chair. Hein. Donc,
un mariage sans procréation, alors qu'il y a possibilité de procréation, n'est pas valable.
Si. Mais si, l'Église le donne comme un bien, comme une fin, mais n'impose à personne de réaliser cette fin pour la validité du... Vous savez que la seule... Enfin, n'impose à personne. Enfin, si, dans le droit canon, le mariage doit être consommé pour être un mariage. Ouais. Mais si le couple est stérile, ça n'est pas considéré comme un motif d'invalidité.
Et si le couple refuse de faire des enfants, dis-moi, on ne veut pas faire d'enfants, est-ce qu'ils peuvent se marier quand même ?
Ah, s'il refuse avant, en disant... normalement, le couple est ouvert sur la vie, et donc... cela dit, il y a différentes façons d'être ouvert sur la vie, pas uniquement en donnant la vie biologiquement. Dans les rites, il est bien demandé aux époux s'ils acceptent l'accueil de la vie, et là, c'est très clairement la vie biologique. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. On va demander à un canoniste. Moi, spontanément, je dirais que... je dirais plutôt oui, c'est-à-dire que... Enfin, un couple qui refuse d'emblée, avant le mariage, en disant « nous nous marions, mais il est hors de question que nous ayons des enfants », je ne sais pas.
C'est un des quatre piliers, quand même.
Un des cas.
C'est un des quatre piliers du mariage chrétien.
Oui, le don de la vie, oui. Le don de la vie, absolument. Et c'est mentionné dans le rite, et on pose la question... acceptez-vous le don de la vie, et quand vous aurez des enfants, acceptez-vous de les élever dans la foi catholique, etc. Donc c'est normalement une... Mais moi, j'en ai jamais eu des situations comme ça, mais peut-être vous en connaissez, de couples qui refuseraient absolument de donner la vie, enfin, au sens biologique, je n'ai jamais eu ça. Mais...
Au moment du mariage, si la question est posée...
C'est la question est posée.
Non...
La question est posée, oui. Elle est posée.
C'est souvent plus subtil que ça.
Ah ben, il y a beaucoup de subtilités en mariage. Vous savez que le mariage, dans le code de droit canon, c'est la partie la plus importante. Et donc, le droit du mariage, c'est le chapitre le plus épais du code de droit canon. L'actuel. Parce que ça a tout compliqué. Jean-Paul II a tout compliqué. Parce que comme il a donné le don mutuel des époux comme une des fins du mariage, hein, donc Casti Connubii et Jean-Paul II, si, n'est-ce pas ? Ça complique tout. Avant, c'était simple. Il y avait des enfants, il n'y avait pas d'enfants, etc. Maintenant, il faut évaluer aussi le don mutuel des époux, c'est-à-dire presque les sentiments, si vous voulez. Les sentiments, etc. Et donc, à partir du moment où les sentiments ont envahi le droit canon, ça a posé plein de questions nouvelles. Hein, et le droit canon, le droit du mariage a pris une proportion beaucoup plus importante. Et c'est maintenant... d'ailleurs, quand vous voulez piéger un jeune prêtre qui passe, enfin, un futur prêtre qui passe son examen de droit canon, on va le piéger toujours sur le droit du mariage, parce qu'il y a plein de choses trappes, il y a plein de situations possibles, etc. Il y a plein de conflits possibles avec la loi civile, acceptez-vous ça, n'acceptez-vous pas ça, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'il faudrait savoir et qu'on sait le jour de l'examen et qu'on resserre après si jamais on a un cas qui se présente, mais c'est épais comme ça. Alors, Pacem in Terris, c'est Jean 23, voyez, c'est donc le pape qui a ouvert le concile, qui est mort pendant le concile. Pacem in Terris, et qui est une encyclique pendant le concile, c'est la grande encyclique que je vous parlais des valeurs de paix, je crois, la dernière fois. Hein, on est en plein épisode de la baie des cochons, donc c'est dans le monde de l'armement, du surarmement des années 60. C'est la grande encyclique pacifique, on pourrait dire. Alors, Jean XXIII s'est fait traiter de pape gauchiste à ce moment-là, parce qu'il était pacifiste. Au moment, en pleine époque de la guerre de la baie des cochons et de l'affrontement Est-Ouest, donc Pacem in Terris, suivi par Paul VI sur le progrès des peuples. Hein, Paul VI qui a conclu le concile, Et donc, 2 ans après la conclusion du Concile, la grande encyclique de Paul VI sur le développement des peuples. Donc, un grand texte de morale, on pourrait dire, économique, internationale. On dirait aujourd'hui précurseur à la question de la mondialisation que nous vivons aujourd'hui. C'est un texte qui n'a pas beaucoup vieilli. Enfin, il y a des données qui ont vieilli, mais la puissance du texte est toujours assez forte, je trouve. Humanevitae, faut-il que je vous présente Humanevitae ? C'est donc le grand texte, la grande encyclique qui a plombé complètement le pontificat de Paul VI. On dit que ça a beaucoup fait souffrir Paul VI parce que ce texte a été rejeté par énormément de gens et énormément de femmes catholiques dans le monde parce que ce texte condamnait toute forme de contraception chimique. Et donc, l'opinion publique internationale, mais je dirais l'opinion publique catholique, pour autant qu'il y ait une opinion publique catholique d'ailleurs, mais bon, grande question. L'opinion publique catholique, en particulier féminine, n'a absolument pas compris ce qui se passait. Parce que Paul VI était perçu comme un pape d'ouverture, le pape qui a poursuivi le concile, qui a poursuivi le renouvellement de l'Église, opéré par le concile, et paf, contre toute attente, il interdit la contraception chimique à un moment où l'émancipation de la femme était en marche, si vous... Enfin, excusez-moi, c'est pas bon ça. Mais, enfin, était en chemin. en chemin. Et il interdit ça. Et donc ça a été une... Pour celles qui s'en souviennent, je veux dire, en France, on n'imagine pas ce que ça a représenté. Un tremblement de terre comparable au scandale sexuel actuel, c'est-à-dire... avec un épiscopat français qui a dû se fendre d'un texte où il faisait état de son désarroi. Hein, les évêques français faisaient état de leur incompréhension, de leur désarroi, et proposaient quand même des éléments pour comprendre la position du pape, mais ça a été vraiment un texte, je veux dire, rejeté par une forte partie du peuple catholique, non seulement en France, mais dans le monde. Hein. Il n'y a pas que ça dans Humanevitae, mais voilà, ça a focalisé évidemment là-dessus. Persona humana, ça, si vous vous ennuyez, une longue soirée d'hiver, un peu fraîche, faut pas le faire. C'est un dimanche après-midi de novembre, pluvieux, laissez tomber. Mais parce que c'est pas très drôle, c'est quelques questions d'éthique sexuelle et un peu croquignolesque, si vous voulez. Mais c'est un document très connu qui n'a pas le statut d'une encyclique. Hein. C'est un texte de la congrégation, c'est une déclaration de la doctrine de la foi. C'est-à-dire que c'est un texte qui est signé par le pape, mais qui n'est pas du pape, hein, qui est un texte de ce qu'on appelait avant le Saint-Office, donc ce qu'on appelle maintenant la doctrine de la foi. Et ce texte-là est interdit à peu près tout. Donc, tout ce qui est, je ne sais pas comment, c'est un texte que l'on cite souvent parce qu'il explore la question de la nature. Voilà. Et donc il est très très important, même s'il est très ennuyeux à mon avis à lire, parce que c'est un texte, si vous voulez, de contrôle hein, de la sexualité, mais il est très important parce qu'il est, il tourne autour de la nature. La nature et du contre-nature, c'est-à-dire un des thèmes centraux de la théologie catholique. Donc c'est un texte qu'il faut lire malgré tout. Alors prenez un après-midi ensoleillé, allez, je ne sais pas moi, au but de Chaumont, ou je ne sais pas, à la plage, ouais. Et enfin lire Persona Humana à la plage, c'est un peu vicieux, mais c'est, si vous me permettez, enfin voilà, il faut vraiment le lire parce que c'est l'idée de nature, et c'est quelque chose de tellement central et de tellement discuté en théologie morale que voilà, là, on peut pas ne pas le lire quand on fait un peu de théologie morale. D'abord, tous les papes après l'ont commenté, cité, recité, voilà. Très important. Très, très important.
C'est sous quel pape, là ?
75, c'est Paul VI encore. Laborem exercens, très important, texte sur le travail de Jean-Paul II, très important parce que c'était les ambiances syndicats, Solidarność, Pologne, c'était l'émancipation, la fin du bloc soviétique, et donc comment comprendre la question du travail et renouveler ce qu'on pourrait appeler la théologie du travail, hein, et en particulier présenter le travail comme un épanouissement, c'est-à-dire l'homme se réalise dans le travail. Vous voyez, c'est très important ce texte, parce que ça permet de comprendre, si vous voulez, les questions de comment la position de l'Église sur le chômage, sur les chômeurs, sur le je sais pas quoi, le RSA, etc. C'est-à-dire que, vraiment, là, Jean-Paul II donne une dimension de théologie sociale au travail. C'est-à-dire par la question théologique de la création. Travailler, c'est participer à l'œuvre, c'est continuer, finalement, l'œuvre du Créateur. Et donc, c'est une question de dignité. Le travailleur réalise sa dignité par le travail. C'est, on va dire, le prolongement de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, hein, que j'ai cité tout à l'heure. Familiaris Consortio. C'est donc une exhortation apostolique. Vous savez, les exhortations apostoliques, ce sont les textes que les papes signent à la fin des synodes. Alors, ça n'a pas l'autorité d'une exhortation, mais c'est quand même un texte du magistère très important. Et là, il est sur la famille. Donc, si vous voulez avoir la conception de la famille que l'Église défend aujourd'hui, soutient en ce moment, hein, c'est Familiaris Consortio qui est le texte de référence, vous voyez, qui date du début des années 80. Pour vous expliquer pourquoi une partie de l'Église s'est opposée à une partie substantielle au mariage pour tous il y a quelques années, les bases théologiques les plus contemporaines, c'est Familiaris Consortio, Jean-Paul II. Donum vitae, super important. Donum vitae, le don de la vie. Alors, c'est sur les nouvelles méthodes de procréation. Donc, si vous voulez vous situer en conscience et réfléchir à ce que l'Église croit sur le don de la vie, c'est-à-dire les nouvelles méthodes, on dit PMA ou AMP, peu importe, hein, c'est Donum Vitae qui est le texte de référence, signé par le cardinal Ratzinger, puisqu'à l'époque, Ratzinger était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, et ce texte interdit toutes les méthodes de PMA. Hétérologue et homologue, couple marié, pas marié, etc. Enfin, pas marié, ça se pose même pas, quoi. Mais voilà. Interdit tout, c'est-à-dire que c'est là, pour le coup, c'est la position catholique qui n'est pas la même que la position protestante. Hein. Les protestants, on va dire luthéro-catholiques, luthéro-calviniens ou calvino-luthéro, comme vous voulez, acceptent une bonne partie des nouvelles méthodes de PMA. Il y a un peu de tirage chez eux, mais quand même. Hein. Nous, pas. Et donc, le texte de référence le plus proche de nous, pour dire pourquoi, c'est Donum Vitae. Et donc, quand aujourd'hui, François ou Éric de Moulin-Beaufort, ou je ne sais pas qui, se prononce sur la PMA et la révision des lois de bioéthique, le texte qui fait autorité, c'est Donum Vitae. Sollicitud Aurei Socialis, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, celle-là, mais enfin, c'est une encyclique, elle aurait dû être plus... Ah ben non, mais je les ai mis aussi, j'ai mis un peu de chronologie, donc voilà. Sollicitud Aurei Socialis, c'est l'encyclique sociale, la grande encyclique sociale du pape Jean-Paul II. Hein, sollicitude pour les choses sociales, vous voyez, c'était l'anniversaire de Rerum Novarum. Donc c'est l'actualisation par Jean-Paul II de la doctrine sociale de l'Église. Hein, par exemple, vous trouverez dans ces textes-là des formules du type le nouveau nom, mais déjà dans la Bohème Exercens, si je ne m'abuse, mais le nouveau nom de la charité, c'est la solidarité, par exemple. Donc ces formules-là qui paraissent aller de soi datent de ces années-là. La dénomination sociale de la charité, c'est la solidarité. ça n'allait pas de soi.
La fraternité, c'est pas plus fort.
C'est autre chose. En tout cas, ce n'est pas la notion que Jean-Paul II a mise en avant. Ça, c'est plutôt Benoît XVI qui mettra en avant la fraternité. Mais Jean-Paul II n'a pas, à ma connaissance, travaillé spécialement la notion de fraternité. En revanche, d'ailleurs, elle était peu mise en avant dans ces années-là. En revanche, le mot solidarité, qui c'est pas seulement solidarnoche, mais le mot solidarité apparaissait beaucoup dans le syndicalisme, dans le monde ouvrier dans les années 80-90. Et on réclamait beaucoup de l'Église qu'elle acceptât qu'elle acceptât l'idée de solidarité qui paraissait. Elle a d'abord refusé, en fait, parce que solidarité paraissait, si vous voulez, très horizontale. On est solidaire entre hommes et femmes, mais c'est pas la charité qui vient de Dieu. Vous voyez, donc il y avait un aspect un peu. On perdait un petit peu. On désubstantialisait un peu la notion. Finalement, Jean-Paul II l'a complètement validée et a dit « la solidarité est le nouveau nom de la charité ». C'est-à-dire que dans l'univers économico-social qui est le nôtre, gilets jaunes et compagnie, la solidarité est le nouveau nom de la charité. C'est ce qui fait, par exemple, que plusieurs évêques sont allés sur les carrefours et ont soutenu le mouvement. Donc c'est voilà, Veritatis Splendor, c'est une encyclique Alors le problème c'est que tout est assez important là-dedans. Veritatis Splendor, c'est l'encyclique morale de Jean-Paul II. C'est la grande encyclique de théologie morale de Jean-Paul II. Alors elle est dure à lire, hein. Je vous préviens, faut s'accrocher, Madame a testé, c'est franchement dur à lire parce que. Mais alors c'est un texte. Pourquoi ? Parce que le pape Jean-Paul II se situe. Ou situe la théologie morale, alors on va le faire, hein, situe la théologie morale parmi les théories éthiques contemporaines. Donc nous pataugeons dans des théories éthiques contemporaines, que je vous expliquerai un peu. Et Jean-Paul II fait un acte de discernement magistériel par rapport aux théories éthiques contemporaines. Évidemment, il les récuse toutes. Mais... C'est, voilà. Donc ça, il faut le savoir. C'est le texte de référence. Si vous voulez, c'est Jean-Paul II se fait théologien moraliste. Il n'est pas tellement théologien moraliste de formation. Hein. Il est plutôt du côté de l'anthropologie, de tout ça. Il avait fait une thèse sur... J'ai oublié, le nom arrive sur mes lèvres, mais je ne sais plus sa thèse. Mais c'était plutôt... il était entre la philo-morale et l'anthropologie. Mais là, il se fait théologien moraliste et il situe l'Église par rapport aux théories morales ou éthiques, si vous voulez, du temps. Fides et ratio, c'est la même chose, mais pour les philosophes. Donc s'il y a des philosophes parmi vous, l'encyclique adressée aux philosophes, c'est... Fides et ratio, la foi et la raison. Alors, les deux encycliques se font un peu écho. Hein, on peut lire les deux en... Si vous avez du courage, vous prenez l'une dans la main droite, l'autre dans la main gauche. Vous pouvez les lire un peu en parallèle. Vous verrez que de temps en temps, ils s'adressent aux théologiens, de l'autre aux philosophes. Et ils abordent dans les deux cas des questions morales. Laudato aussi, on passe à c'est très proche de nous. C'est l'encyclique sur l'écologie de François. Je reviendrai dessus, là, pour l'instant j'en dis rien, mais j'en reviendrai sur l'encyclique. Et Amoris Laetitia, c'est le dernier texte magistériel important, sauf celui sur les jeunes qui est sorti il y a quelques jours, mais je vous épargne le texte sur les jeunes, qui à mon avis n'a aucun intérêt, mais je dis d'autant plus ça que je ne l'ai pas lu. Mais je subodore qu'il n'a pas d'intérêt, mais j'ai peut-être tort. Je suis peut-être très mauvaise langue. Mais Amoris Laetitia, par contre, ça a beaucoup d'intérêt pour la question qui nous occupe. Hein. Je ne dis pas en absolu. Mais pour la question qui nous occupe, la théologie morale, Amoris Laetitia, c'est le synode sur la famille, donc qui est conclusion du synode sur la famille avec une nouvelle méthode introduite par le pape. Méthode de texte voté à la majorité, hein, je l'ai évoqué, majorité simple parfois, pas les deux tiers. Mais simple, et puis un synode qui avait suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'inquiétude, où il y a eu énormément de tensions, où je sais de sources sûres, mais je ne vous le dirai pas, que le pape est extrêmement déçu. extrêmement déçu lui-même du résultat, c'est-à-dire qu'il comptait faire beaucoup plus et il n'y est pas arrivé, puisque ce texte a été bloqué, a suscité une volée de bois vert, plutôt de bois rouge, par un certain nombre de cardinaux. Et donc, le texte disons, l'ambition du pape a été stoppée par une bronca de théologiens, et d'évêques et de cardinaux. La seule chose que François ait pu obtenir, c'est, j'ai vu, il y avait un article dans La Croix, je crois, hier, c'est l'accès, sous certaines conditions, vraiment, hein, c'est très cadré, l'accès à la table eucharistique pour les divorcés mariés, ce qui a déjà été un tremblement de terre, et un très 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 mal accepté par une petite partie en réalité, mais une partie très agitée de l'épiscopat qui a menacé même de schisme. Alors on n'est pas arrivé au schisme, mais alors donc ça a beaucoup calmé le pape, si vous voulez, et depuis il n'ose plus grand chose sur tout ça. Mais soyez attentifs à la prochaine étape, parce que la prochaine étape, c'est l'Amazonie. Il y a un synode sur l'Amazonie, et mon petit doigt me dit qu'il pourrait se passer des choses en Amazonie, si ça se passe comme ça pourrait se passer. Alors, je passe au chapitre suivant. Vous savez que quand le pape aime bien les périphéries, et s'il fait un synode très loin de Rome, m'est avis qu'il va essayer de faire passer en Amazonie ce qu'il n'arrive pas à faire passer à Rome. Eh bien, c'est cette année, et pas dans pas longtemps. C'est, je ne sais plus si c'est avant ou après l'été, mais c'est dans ces eaux-là. Hein. C'est cas de le dire, mais c'est dans ces eaux-là. Tapez sur Internet, pas maintenant, hein, mais Amazonie, synode, machin, et puis célibat. Allez voir sur célibat. Alors, après, il y a les outils pédagogiques. Alors, j'ai mis les dictionnaires. Là, je vais pas... On va avancer très vite, là. Hein. Mais je vous ai mis les dictionnaires qui sont les plus connus. J'ai commencé par le mien. Non, c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est que c'est le plus récent. Donc, ne croyez pas qu'il est meilleur, mais c'est le plus récent. C'est-à-dire, il est déjà vieux puisqu'il a 6 ans d'existence. Mais enfin, un dictionnaire, ça vieillit entre 5 et 10 ans, hein, sur les questions d'éthique. Donc on est à 6 ans, vous voyez.
Il y en a d'autres, mais le
plus récent, c'est celui-ci. Il a l'avantage d'être écuménique, c'est-à-dire il est fait en collaboration avec des théologiens protestants. On a essayé avec les orthodoxes, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils font beaucoup moins de théologie morale. En réalité, donc, c'est plutôt un dictionnaire luthéro-catholique. Bon. Ensuite, il y a un texte que j'ai mis du Conseil pontifical pour la famille, qui est un lexique, mais ne vous trompez pas, le lexique, c'est en fait un dictionnaire. Hein. C'est quasiment le format d'un dictionnaire, très centré sur les questions de famille. Je dirais même obsessionnalisé par les questions de famille. J'étais qui ? Et puis, alors, j'ai mis Monique Cantoche-Perber, parce que Madame Cantoche-Perber est donc une excellentissime philosophe moraliste, qui doit être encore depuis, je pourrais mettre Saint-Pierre, maintenant, quelques années, on va dire, qu'elle dirige l'ENS, et je ne sais plus si c'est encore elle maintenant. Donc, c'est un dictionnaire de philosophie morale, de très très bonne tenue aussi. Il y en a d'autres, mais j'ai mis ça. Bon, après les cours et les manuels, alors là aussi, c'est très intéressant. Le Pinkers, je vous l'ai mis pour mémoire, mais c'est pas la peine, parce que je vais beaucoup en parler du Pinkers tout à l'heure. Enfin, c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous dire là tout à l'heure. Bruges, c'est très très bien, parce que c'est très pastoral et assez simple d'accès. Si vous avez envie de lire vous voyez, en plus, c'est un précis. Donc, précis, ça veut dire que ça a la prétention d'une pédagogie assez... Enfin, un peu simplifié par rapport à un traité. Voilà. C'est bien, parce que c'est bien écrit, c'est solide, on comprend ce qu'on lit, ce qui est intéressant. Et voilà, en fait, il a publié son cours, le cours qu'il faisait quand il était... c'est un évêque dominicain, hein, théologien moraliste, qui... c'est le cours qu'il faisait à Fribourg, en Suisse. Alors, c'est bien. Si vous voulez avoir un bon cours de théologie morale, il y a celui-là. Thévenot, parce que c'est super aussi, c'est différent. Thévenot, c'est le... The big one, enfin pas, c'est pas le big one, mais enfin, il a longtemps été le maître à penser de la théologie morale française. C'est quelque chose, la théologie catholique française, depuis le Concile, et donc professeur très longtemps à l'Institut catholique de Paris, et qui a marqué une génération entière d'enseignants, d'étudiants, et qui est donc Thévenot, tout ce qui est écrit par Thévenot, je ne veux pas le béatifier tout de suite, mais disons que c'est très très bien parce que c'est solide, lisible, costaud, accessible, théologique et pastoral. Donc quand vous tombez sur un Thévenot, vous lisez forcément Xavier Thévenot. Je dis ça parce qu'en plus, depuis, si vous voulez, on en parlait d'ailleurs un peu hier, depuis on n'a pas vraiment fait mieux. Et voilà. Alors j'ai mis celui-là juste pour vous présenter le Thévenot, hein, mais j'aurais pu mettre toute la biographie de Thévenot. Hein. Là, morale fondamentale, c'est le cours qu'il faisait à la Cato de Paris. Il y en a plein d'autres qui sont là-haut à votre disposition, qui traitent de questions ponctuelles, genre la pénitence, les péchés, je ne sais pas quoi, moi, plein de choses. Hein. Y compris les liens entre théologie spirituelle et théologie morale. C'est les années 80. Ça a à peine vieilli comme langage, c'est encore excellent, et donc je ne saurais trop le recommander. Kauss Müller, bon, c'est quasiment un dictionnaire, j'aurais presque pu le mettre dans les dictionnaires, c'est nos frères protestants, je l'ai mis parce que c'est un dictionnaire protestant qui est excellent. Malheureusement, Jean-Daniel, qui est un ami, est décédé il y a quelques mois. Jean-Daniel, donc, et Denis. Et puis Alain Thomasset, c'est un jésuite du Centre Sèvres, qui est professeur actuellement au Centre Sèvres. C'est son propre cours de théologie morale qu'il donne actuellement au Centre Sèvres. Alors vous voyez, si vous avez envie de faire beaucoup plus intelligent et pertinent que le moine, hein, vous prenez Thomasset, Thévenot, Bruguès, et vous aurez beaucoup mieux qu'avec moi. Mais voilà. C'est quand même des grands cours, mais c'est à mon avis ce qu'on fait de plus. Alors évidemment c'est plus approfondi que ce qu'on fait là, mais voilà. Alors j'ai terminé là-dessus. Vous voyez, ça me prend un petit temps, mais je trouve que c'est bien de faire la cour. C'est magnifique quand même de faire le cours par. Quand je commence, aujourd'hui je suis très fatigué, donc quand je suis très fatigué, je fais un lapsus tout le temps. Oui, mais vous les relevez, mais vous ne les interprétez pas, hein, s'il vous plaît. Alors, et puis, donc on va passer, on pourrait faire le cours par la bibliographie, c'est toujours très intéressant, mais on n'a pas le temps. Donc, cours 2, éléments d'histoire de la théologie morale. Alors, on va le faire par les sommets, hein, je suis un peu désolé, mais on va le faire par les sommets, je pense que ce sera déjà suggestif. Mon but, c'est de vous donner goût à la théologie morale. Ça, je ne suis pas sûr d'y arriver. Ce n'est pas forcément une discipline très, très, très fun, mais on va essayer. Alors, on va commencer par la Bible. Vous voyez le développement de mon propos. Vous pouvez m'interrompre, hein, ça ne me dérange pas si c'est trop compliqué, si ça vous paraît bizarre, n'hésitez pas. Alors, Bible. La Bible, bon, comme vous savez, Biblia, ça veut dire les livres. Eh bien, figurez-vous que dans la Bible, il y a des livres et il y a des morales. Au moins, si vous retenez une chose, c'est que ça à retenir, c'est qu'il n'y a pas une morale biblique, ça n'existe pas. Il y a des morales bibliques. C'est ça que je vais essayer d'illustrer au moins par quelques exemples. Alors, là, vous devriez me poser une question, qui pourrait être la suivante. Donc, je vais faire la question et la réponse. Vous dites morale, vous êtes très imprécis, parce qu'après, vous dites éthique. Vous parlez de quoi exactement? Alors, je fais la réponse. La morale, ça n'est pas la même chose que l'éthique. Et autant vous le dire tout de suite. Bon, je le dis maintenant, c'est... Si j'hésite entre morale et éthique, c'est que morale et éthique, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Je vous le dis maintenant, je pourrais vous le dire à d'autres moments, autant vous le dire maintenant, ce sera fait. Alors, morale et éthique sont deux termes qui ne sont pas exactement synonymes. Il y a d'abord un effet mode. Ça fait plus moderne, plus tendance, et c'est plus acceptable de parler d'éthique. Si vous parlez de morale, vous passez pour un vieux, obsolète, vis-à-vis de qui on va pratiquer le dégagisme, comme on dit maintenant. Personne ne fait plus de morale, il n'y a que nous d'ailleurs. Il faut vraiment être catholique pour faire de la morale, c'est de la théologie morale. Le mot morale est déclassé. Il est déclassé depuis 68, il est déclassé depuis qu'on a renversé, depuis que la Sorbonne a été occupée par les étudiants, depuis, etc. Parler d'éthique fait plus moderne. Incontestablement, c'est un effet mode, mais c'est très important. Hein. C'est ce qui permet parfois de parler de la même chose, mais juste avec une étiquette différente. Donc ce n'est pas indifférent. Au début des années 90, c'est-à-dire au moment où le mot éthique s'est imposé un peu partout, a commencé à s'imposer partout, même un livre qui s'appelait « La valse des éthiques ». Donc on commençait à remarquer qu'il y avait des éthiques pour tout, une éthique du sport, une éthique du yoga, une éthique de la spiritualité, une éthique franc-maçonne, une éthique du sport, une éthique maintenant de l'écologie, du travail, etc. Bon, donc il y a un effet de mode et donc de vieillissement et de renouvellement du vocabulaire, c'est incontestable. Derrière ça, est-ce qu'il y a vraiment une différence de contenu? La réponse est oui. Mais ça n'est pas facile de dire quelle différence. Parce que, alors là, en revanche, si vous allez sur Google, comme on dit, si vous allez sur Google, vous trouverez... tout est le contraire de tout sur la différence entre éthique et morale. Vous trouverez même des définitions totalement contradictoires parce qu'on est un peu paumé sur la différence entre morale et éthique. Donc, je vais vous donner une différence qui est souvent acceptée, citée, et donc si vous faites la même chose que moi dans un groupe, notre groupe plus loin, etc., si vous dites ce genre de distinction, normalement, c'est des distinctions qui sont connues. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Vous pouvez tomber sur des gens qui vous diront « Mais non, mais c'est exactement le contraire. » Sans personne n'a exactement la vérité là-dessus. Donc, la définition que je vais vous donner, la différence entre morale et éthique, elle a l'avantage d'être reconnue par Paul Ricoeur. Enfin, quand même, Paul Ricoeur, depuis quelques temps...
Il fait de la politique, maintenant.
J'ai cru comprendre. Par Paul Ricoeur, et en même temps, par Michel Foucault. Donc, c'est des philosophes proches de nous, et donc, vous voyez, c'est quand même des bases solides, mais ce n'est pas des pères de l'Église, hein. C'est quand même des bases contemporaines qui sont... Alors, déjà, l'étymologie, vous n'arrivez pas non plus vraiment à distinguer. Hein. D'un côté, vous avez, pour morale, mos, M-O-S, mos mores, pour vos... Il y a des latinistes parmi vous. Mos mores. Les mœurs. Donc c'est très large. Hein. Avec ça, c'est les mœurs, c'est toute la gamme, hein, si vous voulez. Bon. Et puis, mos, M-O-S. Mos mores. Et puis, si vous êtes sur éthique, donc éthique, c'est le grec, ethos. Alors là, je simplifie parce qu'il y a une petite ruse, mais je passe sur la petite ruse. Ethos, bah, finalement, vous arrivez sur... l'ethos, c'est quoi? C'est les coutumes. Les coutumes, et on peut traduire en fait ethos par les mœurs. Donc vous arrivez sur quelque chose d'assez comparable. Hein, d'ailleurs, le mot ethos est passé pratiquement dans le langage. Hein, on a un ethos commun dans cette pièce, ça veut dire qu'on a des coutumes, on a des mœurs communes. On a une culture, on pourrait dire, commune. Donc, entre... Vous voyez, l'étymologie, c'est pas génial pour distinguer. Alors, la distinction de fond, la morale serait du côté de la loi,
et donc des normes. Si vous voulez, en gros, c'est le code de la route. C'est le code de la route qui nous dit ce qui est permis, interdit. C'est tout à fait ça, la morale. L'éthique, au contraire, est du côté du sens. Du sens et du but de l'action. La finalité de l'action. L'objectif que je donne à mon action. Donc, d'un côté, la loi, le normatif, le codé. De l'autre, le but, la visée. Oui.
Alors, si vous me permettez, oui. Pour moi, personnellement, la morale, c'était une manière de vivre avec les autres. Et puis l'éthique, c'était justement la réflexion sur cette manière de vivre.
Et oui, vous trouvez ça aussi. Alors, il y a d'autres distinctions. Hein.
L'éthique comme culture, la morale oui.
Oui, c'est ça. Là, vous êtes plus dans mon sens, c'est-à-dire l'éthique est du côté du futur, donc la visée de l'action, le projet de vie, si vous voulez, ce que vous voulez construire, la morale du côté de la loi, c'est-à-dire des conditions concrètes que vous vous donnez pour votre action. De même, vous pouvez doubler ça d'autres distinctions entre le singulier et le collectif. Vous avez une morale. Mais nous avons une éthique. Et remarquez qu'on peut aussi inverser. Vous avez une éthique, c'est-à-dire vous avez un style, vous avez... il y a une éthique celui-là, donc il a une singularité. Mais on a une morale commune. Donc, mais on joue souvent sur le singulier et le collectif pour distinguer morale d'éthique. Mais vous avez les deux définitions inversées, et c'est vrai pour ce qui concerne... Mais par exemple, chez Foucault, on a directement ça. Hein. Foucault n'utilise pas tellement le mot moral, il prend le mot éthique et il dit il y a une éthique du code. Alors, l'éthique du code, c'est ce que nous, on appellerait la morale. Et puis, il dit il y a une éthique de la construction de soi. L'éthique de la construction de soi, c'est ce qu'on appelle, nous, l'éthique. C'est-à-dire la visée, le but, le projet, le futur, comme dit Madame. Hein, on se construit dans l'histoire, dans l'avenir, on se projette. Donc le code d'un côté, la construction de soi de l'autre. Bon. Ce n'est pas des distinctions faciles, elles ne sont pas acceptées par tout le monde et elles sont parfois contradictoires, mais enfin... elles ont la distinction que je vous propose a mérite d'exister et elle est parfaitement reconnue. Alors à partir de là, la Bible. La Bible, oui, elle a des morales ou des éthiques plurielles. Il n'y a pas dans la Bible, je reviens maintenant sur la Bible, hein, il n'y a pas dans la Bible une morale ou une éthique, il y a des morales ou des éthiques. Je donne quelques exemples. Dans les évangiles, prenons les évangiles. On va faire un test surtout dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez prenons les épîtres de Paul, par exemple, ou les épîtres attribuées à Paul, Paul. Vous savez que les premiers chrétiens, prenons la première aux Thessaloniciens, par exemple, les premiers chrétiens pensaient qu'ils n'allaient pas mourir, c'est rédigé comme ça, avant d'avoir vu le retour du Christ en gloire. Il y a même une formule de Paul assez lapidaire là-dessus. Bon. Comment voulez-vous fonder une morale là-dessus? Il n'y a pas de morale dans ces cas-là. C'est-à-dire, à partir du moment où le retour du Christ est imminent, ce n'est pas la peine de faire de la morale. Et c'est exactement ce que dit saint Paul. « Oh, mariez-vous ou pas ?» Vous voyez ce texte, hein ?« Mariez-vous ou pas, que ceux qui sont mariés le restent. » Que ceux qui sont, je ne sais pas quoi, moines, etc., le restent. Peu importe. De toute façon, le retour du Christ est pour demain. C'est-à-dire, la morale est un luxe inutile à partir du moment où le retour du Christ est imminent. La morale ne vaut que si on a le temps de s'inscrire dans l'histoire. Donc la morale pour les tout premiers chrétiens, il n'y en avait pas. Parce que Jésus remontait aux cieux, annonçait un retour que tout le monde pensait imminent. C'est-à-dire, j'allais voir dans le laps de ma vie, dans le temps de ma vie, le retour de Jésus. Donc à quoi bon penser faire une morale? Tout était relatif. Vous allez me dire, c'est très bien, depuis la première aux Thessaloniciens. Ben oui, mais regardez toutes les comparaison n'est pas raison, mais tout ce qui est apocalyptique, eschatologique, y compris de nos jours, les martyrs, ceux qui se donnent la mort, si vous voyez ce que je veux dire, en se faisant sauter sur des bombes, n'ont pas besoin de morale. Ils rejoignent tout de suite le paradis. Donc la morale ne vaut que pour ceux qui ont envie de s'inscrire dans le temps relativement long de l'histoire. Donc une temporalité apocalyptique, ce qui est pratiquement une alliance de mots, il n'y a pas besoin de morale. Hein. Jésus revient, comme dit le film, et c'est pas la peine de faire le mariage pour tous. Hein. On ira tous au paradis, comme disait la chanson. Alors, le premier constat, c'est que les plus anciennes lettres de l'apôtre Paul ne développent pas de morale. Donc, ne me parlez pas de la morale de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Si vous passiez un examen avec moi, je vous dirais, il n'y a pas de morale de l'apôtre Paul dans les premiers textes. Parce que c'est le retour de Jésus. Pas le temps pour la morale. Mais si vous allez chez Saint-Luc, alors, si vous avez en tête la chronologie, on est plusieurs dizaines d'années après. On est 80, 90, on va faire une fourchette très très large entre 60 et le 1er siècle, si vous voulez. Ah, il y a déjà un siècle. Ça veut dire que Jésus n'est pas revenu. Ça veut dire que la parousie n'est pas pour tout de suite. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans l'histoire. Donc on va avoir le temps pour faire une morale. Alors chez Saint-Luc, vous allez avoir une morale. Saint-Luc, c'est-à-dire son évangile, les actes des apôtres. Alors effectivement, il y a une morale. Et c'est une morale qui réfléchit à l'identité chrétienne. C'est-à-dire que, puisque nous inscrivons dans l'histoire, puisque c'est le temps de l'Église qui se déploie, hein, ce qu'on va vivre, nous, après la Pentecôte, puisque c'est le temps de l'Église qui se déploie, que le Seigneur ne revient pas tout de suite, il faut qu'on s'installe un peu. Hein. On a le temps de s'installer, on a le temps de faire des enfants, on a le temps de les baptiser. Bon, très bien. Donc, il faut que les chrétiens se distinguent dans le monde. C'est la question de l'identité. Vous voyez, l'identité chrétienne qui est une question d'aujourd'hui, mais qui est une question du tout premier siècle. Alors, la question de Saint-Luc, c'est, en morale, c'est comment reconnaît-on un chrétien dans le monde? Quelle est son identité? Eh bien, son identité, c'est la charité. C'est la compassion, c'est la miséricorde. Donc, on reconnaît un chrétien à la pratique de la miséricorde. Hein, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'évangile de Luc est appelé souvent l'évangile de la miséricorde. Donc, la marque de fabrique de l'identité chrétienne inscrite dans l'histoire, puisque chez Luc, et si vous êtes du coup lucanien, comme on dit, c'est la pratique de la miséricorde.
Mais saint Paul, dans l'épître aux Galates, il fait bien.
Mais oui, mais l'épître aux Galates, c'est pas la première en Thessalonicien, c'est bien après. Ouais. Donc saint Paul, les premiers textes de Paul qui sont de Paul, et puis vous avez les textes deutéropauliniens ou qui sont attribués à Paul. Et dans les textes deutéropauliniens qui sont beaucoup plus tardifs et qui sont attribués à Paul, c'est-à-dire à une école, à des disciples, si vous voulez, qui ont signé, puisqu'il n'y a pas de notion de propriété littéraire dans l'Antiquité, vous allez avoir, en effet, dans certaines épîtres, ce qu'on appelle les codes domestiques. Et les codes domestiques, votre question était très pertinente, les codes domestiques sont beaucoup plus tardifs. Les codes domestiques, c'est, mesdames, vous devriez tout de suite les avoir en tête, parce qu'ils sont d'une actualité désuète, délicatement désuète. Personne ne choisit plus au mariage, ça au mariage, pour la première lecture du mariage, sauf si vraiment on veut marquer... Ah, voilà. Voilà une morale familiale. Femmes, soyez soumises, soyez soumises à vos maris. Et donc la question de madame était pertinente, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on s'inscrivait dans l'histoire. Si c'est pas une morale familiale, ça, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc voilà une morale familiale. Mais vous voyez, elle est déjà plus tardive. C'est-à-dire que c'est déjà le temps de l'Église, et c'est, on n'est plus dans les premières années de Paul, on est dans les dernières lettres de Paul, ou des attribuées à Paul. Donc c'était une bonne question. Je termine, avant de faire la pause, pour le... Alors, chez Matthieu, il y a... La grande obsession de Matthieu, comme vous savez, c'est de distinguer l'identité chrétienne de l'identité juive. Bon, l'identité juive, ça va être l'identité, c'est la loi. Le iota souscrit. Je ne changerai pas un iota, expression qui est passée en français. Et donc, le grand souci de Matthieu, c'est de montrer l'enracinement judaïsant, judaïque de la transmission d'identité entre communauté juive et chrétien issus de communautés non juives, si vous voulez. Donc c'est ça sa grande obsession. Chez Saint Jean, c'est encore autre chose, vous voyez. Chez Saint Jean, il n'y a pas tellement de morale non plus. Le leitmotiv de Saint Jean, d'ailleurs c'est ce qui en fait un évangile à part les synoptiques, c'est le salut. Jésus sauve. C'est ce qu'on a entendu il y a quelques jours. Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Et donc, la communauté johannique, c'est une communauté de salut. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de morale, mais c'est que la morale est complètement seconde. Chez Jean, la morale est complètement seconde par rapport au salut, ou elle est complètement référée au salut. Donc, on pourrait dire, chez Jean, l'Église, c'est la communauté du salut, en Jésus-Christ. C'est d'abord ça, le leitmotiv, si vous voulez, le thème central de Jean, c'est pas d'abord la morale. Le plus moral de la bande, si vous voulez, c'est quand même Saint-Luc. Il n'y a pas grand. Chez Saint Marc, c'est l'évangile des miracles. Il n'y a pas de thème particulier. D'ailleurs, chez Saint Paul, c'est un monde. Donc, le monde de Saint Paul, c'est les premières lettres dont je vous ai dit qu'elles étaient pas marquées par la morale, puisqu'elles ne le pouvaient pas. Et puis, vous avez tout l'éventail jusqu'au code domestique, alors, très marqué par la morale. Et puis, l'Église s'inscrivant dans l'histoire, les catalogues, ce qu'on appelle, parce que c'est un genre en morale, ça, les catalogues, ça s'écrit comme ça, ça se dit comme ça, les catalogues de vices et de vertus. On retrouvera ça beaucoup dans la théologie morale. Par exemple, chez saint Paul, c'est ceux qui sont adultères, les dépravés, n'iront pas, n'hériteront pas du royaume des cieux. Les ivrognes, etc. Voilà, ça c'est un catalogue. C'est-à-dire, on fait le catalogue de tous les vices, et on dit à la fin, n'iront pas, n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, chez saint Paul, c'est un monde. Alors, on pourrait faire, si vous voulez, le même exercice qui serait beaucoup plus long pour l'Ancien Testament. Mais vous voyez que la Bible elle-même atteste de plusieurs positions par rapport à la morale. Il n'y a donc pas, puis je vais arrêter là, il n'y a donc pas de morale biblique, il y a des morales bibliques ou des éthiques bibliques. C'est pour ça, C'est la raison pour laquelle il faut être très prudent quand vous citez l'Écriture. Le très grand défaut du théologien moraliste, de manière de tous les théologiens, mais du moraliste en particulier, quand il utilise la Bible, c'est qu'il se sert de la Bible comme d'un prétexte. C'est-à-dire, il a déjà son raisonnement, et faites l'exercice, vraiment, c'est un exercice très facile à faire chez vous. Vous prenez un texte du magistère, vous regardez les notes de bas de page, et vous regardez dans les notes les citations de l'Écriture. Vous reprenez le fil du texte du magistère. Vous allez voir comment est faite la citation. Et vous verrez que souvent, la citation illustre le texte du magistère. C'est-à-dire qu'on vient se servir de l'Écriture pour appuyer la réflexion du magistère. Alors que la méthode devrait être inverse. C'est-à-dire laisser l'Écriture parler et par la suite en tirer une conclusion théologique. Mais on s'est habitué à faire autrement en réalité. Hein. Alors la morale, c'est obéir à ça. C'est-à-dire, j'ai une idée morale, par exemple je réfléchis sur le mariage, hop, je vais voir dans la Bible ce qui va appuyer mon idée. Et puis je vais mettre la citation biblique, ah ben comme a dit saint Jean. Mais voyez, on ne peut pas le faire parce que vous avez... Normalement, on ne peut pas le faire parce que vous avez plusieurs morales. Et alors, vous pouvez faire l'exercice, mais par exemple, quelle morale est allée chercher le magistère pour justifier telle position? Est-ce que c'est celle de Paul, celle de Luc, celle de Jean? Et donc, vous voyez, ça vous oblige à chaque fois à être sérieux, à être attentif au contexte. Hein, et au va-et-vient, si vous voulez, entre le contexte du temps et... le contexte d'aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que ça, c'est une loi pérenne?
Oui, oui.
Ou ah. Ah, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a réfléchi à la question. Est-ce que c'est une loi pérenne ou, c'est quelque... ou est-ce une loi contingente que l'on peut réinterpréter aujourd'hui? C'est la question, par exemple, de l'ordination des femmes, si vous voulez. Hein? Jésus n'a appelé que des hommes à être... apôtre, l'Église ne s'est pas autorisée à sortir de là. Est-ce que c'est une question de contexte ou est-ce que c'est une question essentielle à la structure de l'Église? Les papes ont dit que c'était une question essentielle à la structure de l'Église et pas une question de contexte. Femmes, soyez soumises à vos maris, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est une question de contexte? Vous voyez, pour le moraliste qui utilise l'Écriture, la complexité, parce que l'Écriture est plurielle, et donc la recevoir aujourd'hui, ça fait l'effort, ça nécessite l'effort de considérer la Bible comme un texte, pas seulement comme un... ce n'est pas la parole incréée, ce n'est pas le Coran, hein, mais la Bible comme un texte. Aussi comme un texte, avec les mêmes outils d'analyse que n'importe quel texte. Bon, là, je fais la pause.
Jusqu'à quand on a lu ce texte-là dans les mariages?
Si vous allez voir le fête et saison, je pense qu'il est toujours dans les textes. Ah bon? Et si vous avez le rituel du mariage, il est toujours proposé et de temps en temps, il est encore choisi. Enfin, ça. Si vous,
et à partir de quand on ne l'a plus beaucoup lu?
Bon, parce que le rituel du mariage s'est renouvelé à la suite du concile et que le rituel du mariage a proposé une multitude de textes alternatifs à celui-ci.
J'ai l'impression
que moi, en 67, j'ai lu ça. Ah ben, 67, c'était déjà après le concile.
Oui.
Oui. Et je ne sais, le rituel du mariage devait être dans la foulée. Thank you.
Il y aura l'enregistrement.
C'est ma conviction.
Pas pour vous, pas n'importe comment, mais
Yeah.